Bon matin à tout le monde, vous allez bien? Oui, merci à l'équipe de louange. Tellement un bon temps pour nous rapprocher de Dieu ensemble, d'adorer notre grand Dieu en assemblée, en église. Merci toute l'équipe et merci tout le monde de chanter avec nous parce que dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se rassemble le dimanche matin, on célèbre Dieu ensemble et ça, on peut pas faire ça tout seul. On a besoin des uns des autres pour ça. Donc ce matin, on continue notre série dans le livre des Actes, la série qu'on a intitulée au début. C'est vraiment un marathon, cette série-là, notre série « Envoyée ». Et puis, cette semaine, je préparais le message, j'étais en train de lire, on va être dans Actes 19 ce matin, et juste partager un peu comment je réagissais. Je lisais Actes 19, puis j'avais vraiment un plaisir fou à lire Actes 19. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'aime tant le livre des Actes? Pourquoi est-ce que c'est tant un plaisir pour moi d'aller dans la parole puis lire le livre des Actes? Pourquoi j'aime cette série Envoyée? Puis ce que j'ai trouvé, ce que moi j'appréciais, c'est que le livre des Actes, c'est un rappel constant que Dieu est à l'œuvre dans nos vies et aussi dans les endroits les plus sombres de nos vies, de la société, que Dieu, il n'y a pas d'endroit où il ne peut pas se faire connaître. Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre malgré les apparences. Dieu est un Dieu qui est tout puissant malgré que parfois on pourrait penser le contraire. Parce que pour être honnête, c'est facile de regarder notre monde et d'être découragé, n'est-ce pas? En fait, on peut regarder à notre propre vie parfois sans regarder à l'extérieur et être découragé. Si on regarde les nouvelles, qu'est-ce qu'on va entendre en ce moment? La guerre, l'inflation, le prix de l'essence, les maladies. C'est facile d'être découragé quand on regarde les nouvelles. Dans nos vies, nos relations, nos propres manquements, nos échecs, la maladie. Si je te posais la question ce matin, qu'est-ce qui te décourage? Je suis sûr que tu pourrais aussi écrire ta liste. Et on essaie de naviguer dans tout ça. Parfois, on se pose la question, et peut-être c'est la seule question à se poser, vers où est-ce que je me tourne face à tout ce découragement? Où est-ce que je dois mettre mon espoir? Et parfois, on pense que c'est des questions qu'on se pose si peut-être que tu es ici ce matin, tu examines le christianisme, tu n'es pas chrétien, tu te poses des questions. Mais j'aimerais te dire que je crois que chacun d'entre nous, on a constamment besoin de se reposer ces questions-là. Face au découragement, face aux difficultés dans nos vies, où est-ce que je dois me tourner maintenant? Où est-ce que je vais mettre? Où est mon espoir? Pour naviguer au travers des découragements de nos vies, on a besoin d'un rappel constant que Dieu est à l'œuvre et qu'il est plus grand que les circonstances de nos vies. Non seulement qu'il est plus grand que nos circonstances, mais qu'en bout de ligne, il est plus grand que tout. La puissance de Dieu nous pousse à nous tourner vers lui et à obéir malgré les circonstances. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. La puissance de Dieu nous pousse à nous tourner vers lui et à lui obéir malgré nos circonstances. Et c'est vraiment un thème qui revient dans la Bible constamment. Dieu versus les idoles. Dieu contre les idoles. Ça revient à maintes et maintes endroits dans la Bible. Dieu contre ce qui donne du sens à ta vie. Dieu contre ce qui donne du pouvoir. Dieu contre ce qui te donne de l'amour. Dieu contre ce qui te donne de la réussite. C'est comme cette bataille constante à savoir c'est qui le plus fort. Hier, je prenais une marche avec mon fils, mon plus vieux, puis il me parle de un de ses jeux de la Nintendo Switch. Ça s'appelle Mario Super Smash Bros. Puis là, il me disait, papa, il dit, lui, c'est le plus fort, mais moi, c'est lui que je prends à cause de tous ses pouvoirs. Je peux mieux gagner contre tout le monde. Puis là, en passant, les ados de l'église, je voudrais vous inviter à la maison, ceux qui jouent à ce jeu-là. Mon fils a besoin d'une leçon d'humilité. Je lui disais ça hier, j'ai dit là, tu t'es battu contre des petits gars qui jouent pas toujours à la Switch, là. Mais là, je vais te faire venir les ados là qui venaient là quand on faisait des game nights à la jeunesse, puis qu'ils jouaient tellement à ça, fait que je pense qu'il y a les de la mort là-dedans qui sont pas mal forts. Mais il me parlait de ça, tu sais, puis c'est toujours comme, puis là, il joue un tournoi, puis c'est un contre l'autre, puis c'est qui le plus fort, puis c'est toujours cette question, c'est qui le plus fort, avec qui est-ce que je vais gagner? Et il me semble que la Bible revient constamment avec ce thème de Dieu qui est meilleur que tout, de Dieu qui est le plus fort, de Dieu qui va anéantir toutes les choses auxquelles on se tourne pour nous donner du sens, du pouvoir, de l'amour, de la réussite, parce que c'est seulement, il veut nous prouver que c'est seulement lui qui ultimement peut nous donner ces choses. Constamment, cette confrontation. On l'a vu l'année passée, il y a peut-être déjà 2 ans, mais dans le livre aux Hébreux, où ce livre s'adresse à des Juifs qui connaissent Dieu, qui connaissent l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Ces chrétiens qui se sont convertis au christianisme, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre malgré toute leur connaissance? Ils ont besoin de se rappeler que Jésus est meilleur que tout. On le voit dans le désert, dans l'Ancien Testament, alors que Dieu va opérer des miracles pour sortir son peuple d'Égypte et l'amener vers la terre promise. Et entre les deux, il y a toutes sortes de difficultés. Et la réaction du peuple, quand que le peuple perçoit que Dieu n'est pas là, que Dieu prend pas soin d'eux, c'est qu'ils se construisent un veau d'or pour adorer un veau d'or. Dieu contre nos idoles. On l'a vu avec Paul à Athènes. Et ici, on va le voir ce matin à Éphèse, dans Acte 19. Mais avant, on veut continuer à réfléchir sur ce thème qui revient tellement que nous le peuple de la parole de Dieu, on l'a vu la semaine passée, comment on veut rester attaché à la parole de Dieu, on ne peut pas passer à côté de ce thème-là. Et je pense qu'on ne peut pas se sentir mal de trop en parler non plus. Mais pourquoi est-ce qu'il revient si souvent? Est-ce que c'est parce que c'est dur à comprendre? Je crois pas que c'est dur à comprendre. Je pense que ce matin, vous avez tout fait comme, ouais, c'est vrai, je me tourne vers d'autres choses pour plein d'affaires dans ma vie, puis Dieu, il est pas toujours le numéro un, puis on n'a pas de la difficulté à comprendre ça. Non, parce que c'est le fondement de notre être. On a été créé pour adorer. On a été créé pour nous soumettre à Dieu. Mais on a été créé pour nous soumettre à des choses ou des croyances qui vont, selon nous, répondre aux aspirations les plus profondes de notre être. Dieu le sait parce que c'est Dieu qui nous a fait. Dieu sait ce qu'on recherche. Dieu sait c'est quoi qu'on a besoin parce que c'est lui qui nous a fait de cette façon. En fait, on a été créé pour adorer Dieu. Mais notre désobéissance, le fait que, et on le voit dans la Genèse au chapitre 3, où est-ce que l'homme et la femme ont décidé eux-mêmes ce qui était bon pour eux. Le serpent avait dit, Dieu sait que le jour où tu vas manger de ce fruit, tu vas devenir comme lui, tu vas connaître le bien et le mal. En d'autres mots, Adam et Ève ont décidé de prendre ce fruit pour décider à la place de Dieu ce qui était bon pour eux et vers quoi ils allaient se tourner pour avoir leur salut, leur satisfaction, leur approbation. Et même en rejetant Dieu, on ne pouvait pas vivre différemment de comment Dieu nous avait créés, dans ce sens qu'on continue constamment à nous soumettre à quelque chose, à adorer quelque chose, ce que la Bible appelle les idoles. Et bien souvent, les idoles, c'est des bonnes choses, mais on en fait des choses ultimes. Une idole, ça peut être une très, très bonne chose que Dieu a fait, dont Dieu veut qu'on puisse jouir, mais à la fin de la journée, cette chose devient tellement importante pour nous que si on ne l'a pas, notre vie n'a plus de sens. Que si cette chose-là ne nous donne pas ce qu'on veut, on va vivre le découragement, on va vivre l'amertume, on va plus comprendre, on va être désabusé. Des bonnes choses comme la famille, les amis, la réussite, l'authenticité. Une chose que j'ai réalisée dans ma vie, je l'ai déjà partagée ici, mais ma recherche constante d'approbation à travers mes relations. Si les gens me donnent cette approbation-là, ça va, mais qu'est-ce qui arrive quand on la perd? Et on a constamment besoin de lutter avec ces idoles dans nos vies qui sont souvent des bonnes choses qui deviennent des choses ultimes, qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Donc, si la Bible mentionne à ce point ce thème, c'est pas parce qu'il est difficile à comprendre, mais parce qu'on a besoin de se rappeler constamment la vraie puissance qui mérite l'adoration. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 19. Dieu versus les dieux, les croyances des Éphésiens. On va regarder un peu la ville d'Éphèse. Et après, je vous promets, on va aller lire dans Acte 19. Mais c'est vraiment intéressant de voir à quoi ressemble Éphèse. La ville était la plus importante de la région. Troisième plus grande ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. La ville est située sur plusieurs routes terrestres et maritimes. Il y a beaucoup de commerce international, donc beaucoup de gens qui viennent de partout. Donc à Éphèse, il y avait vraiment beaucoup de croyances différentes de plusieurs pays, de plusieurs endroits. En fait, il y avait déjà, quand Paul est arrivé, une communauté juive qui pouvait librement pratiquer leur croyance religieuse, malgré que ce n'était pas la croyance principale de la ville. Il y avait beaucoup de cultes à Éphèse, plusieurs dieux de différentes divinités, soit gréco-romaines, égyptiennes. Plusieurs héros y étaient vénérés, comme Alexandre le Grand, ou les fondateurs de la ville. On avait à Éphèse plusieurs cultes, mais un culte en particulier était le plus grand et celui que les Éphésiens étaient vraiment fiers, c'était le culte de la déesse Artémis. Mais tellement un grand culte que, dans le fond, toute la prospérité économique de cette ville-là, où une grande partie était en fait due au fait que plusieurs personnes venaient pour voir le temple de la déesse. C'était en fait le plus grand temple qui était dans toute l'Antiquité grecque, qui était une des sept merveilles de l'Antiquité grecque, plus grand que le Parthénon à Athènes. C'était une merveille. C'était, les gens mettaient leur fierté dans le fait que Artémis était la déesse des Éphésiens. Beaucoup de gens faisaient de l'argent avec cette déesse-là. Parce que les gens allaient visiter, c'était comme un centre touristique. Donc, les gens faisaient là des... Mais qu'est-ce qu'on achète quand on va faire du tourisme? Des porte-clés, des chandails, des... Mais à l'époque, il y avait des choses semblables où les gens faisaient beaucoup d'argent à cause du tourisme entourant le culte de la déesse. Les principaux attributs de cette déesse, c'était la protection et la santé. Éphèse attribuait sa grandeur, sa beauté, sa prospérité à la grande déesse Artémis. À Éphèse, il y avait beaucoup de magie qui se pratiquait, des exorcismes, des incantations pour toutes sortes de raisons. Exemple, si on voulait guérir les malades, il y avait tout un commerce et tu devais avoir assez d'argent pour être capable. Tu avais besoin d'avoir assez d'argent pour te procurer des livres de magie. Là. C'était, vous allez voir, ça coûtait vraiment cher, mais les gens en avaient des quantités, puis des quantités, puis des quantités. Il y avait énormément de magie et tout ça qui se passait à Éphèse. Et là, Paul arrive à Éphèse, il va entrer dans la synagogue pour parler avec les Juifs. Certains sont réceptifs, certains ne le sont pas. Et il va passer 2 ans à Éphèse à enseigner l'Évangile, à parler de Jésus. Mais on va voir aussi, et on va lire à partir du chapitre 8 ici, ce que Paul va faire. Donc, justement, Paul entra dans la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Donc, Paul se rend à Éphèse et il va faire comme il fait partout, dans tous ses voyages missionnaires, il va enseigner la parole de Dieu, l'Évangile. Il va d'abord dans la synagogue et une fois que les gens sont non réceptifs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller continuer à enseigner pendant 2 ans. Si bien que toute, la région va entendre parler du nom de Jésus, si bien que plusieurs personnes vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Mais ce qui est intéressant dans ce monde où il y a une grande quantité de magie qui se pratique, où les gens mettent beaucoup leur espoir dans ce que les dieux peuvent leur apporter, il y a quelque chose qu'on voit ici qui est incroyable, c'est que au travers de Paul, Dieu va opérer plusieurs miracles pour démontrer sa puissance. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que le nom de Dieu s'est propagé encore plus. Et on voit que ce que Dieu est en train de faire ici, c'est qu'il veut démontrer encore une fois dans un endroit bien précis du monde qu'il est plus puissant que toutes les choses auxquelles vous êtes en train de toucher présentement. Dieu vient chercher notre attention par les choses qu'on connaît en nous montrant qu'il est meilleur que ces choses. On peut penser, par exemple, on a entendu des histoires dans le monde musulman où est-ce que les rêves sont vraiment importants pour les gens. Et Dieu, on entend beaucoup de personnes qui sont venues au christianisme, qui ont mis leur confiance en Jésus par des rêves qu'ils ont eus. On peut penser à la présence d'un sauveur dans des histoires chez des peuples non atteints. Quand les missionnaires sont arrivés dans ces endroits-là, ils ont partagé l'évangile et ces peuples-là qui ont fait comme « Hey, on avait ça dans notre histoire aussi, mais on savait pas c'était qui. » Et Dieu s'est révélé à eux. On peut penser au fait que Dieu s'est dévoilé par la raison à ceux qui essayaient de prouver qu'il n'existait pas. Et Dieu a raisonné avec eux et ces gens-là ont cru. Les miracles, les actes merveilleux qu'on voit ici, c'est le même type d'actes qui sont en train de se produire. Dieu veut déchaîner sa puissance pour démontrer qu'il est meilleur que toute la magie qui s'opère autour d'Éphèse. Dieu veut nous montrer que Dieu versus n'importe quoi, Dieu gagne toujours. Il est supérieur à tout ce qui peut prétendre prendre sa place à lui. Il y a un joueur de soccer français qui a joué dans la MLS, la Ligue professionnelle en Amérique du Nord, qui s'appelle Aurélien Collin. Peut-être que vous avez déjà vu sa vidéo dans « Je suis deuxième », mais il raconte son histoire. Un gars qui a goûté à la gloire, un gars qui a goûté au succès, un gars qui a goûté à beaucoup d'argent, beaucoup de gens autour de lui. Et il raconte dans son histoire ce moment, il y a quelques années, où il gagne la soirée, où il gagne la Coupe MLS. Donc, il gagne la Coupe Stanley de la MLS. Et il se retrouve là, ce soir-là, dans son appartement ou dans sa chambre d'hôtel, après avoir gagné la Coupe MLS. Après avoir, je crois, eu le joueur du match. Je crois qu'il avait eu un gros match. Après avoir réalisé qu'il avait tout l'argent, la réussite qu'il voulait avoir dans sa vie, après avoir eu plusieurs femmes, comme pas des femmes mariées, mais il y avait beaucoup de femmes dans sa vie, et il dit « Je me retrouvais là dans ma chambre d'hôtel et je me trouvais seul et non satisfait. » Son monde venait de se détruire en un sens qu'il avait poursuivi ce succès toute sa vie, et là, au pied de la montagne, au top de la montagne, il se retrouve là, et il se trouve seul, et il se trouve que ça n'a pas donné l'effet escompté. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et malgré tout ce qu'Aurélien Collin a eu, il nous raconte cette histoire où Dieu s'est révélé à lui comme étant la personne la plus satisfaisante qu'il avait jamais connue dans sa vie. Dieu a transformé sa vie, ses relations, son mariage, sa façon de voir le monde. Dieu lui a donné une joie que même être MVP dans la Coupe MLS ne pouvait pas lui donner. Dieu s'est révélé à lui comme étant meilleur que tout. Mais les miracles qu'on voit ici dans Acte 19 sont aussi un encouragement pour nos moments de découragement. Les miracles montrent que Dieu peut justement nous sortir de tout si c'est son plan. On peut avoir cette confiance que Dieu peut tout faire. En d'autres mots, les miracles de la Bible nous rassurent sur la puissance de Dieu dans ma vie, mais aussi que s'il choisit pas, de faire quelque chose maintenant, de me délivrer maintenant, mais je peux quand même lui faire confiance parce que je sais que Dieu en est capable. Et c'est ce que Dieu fait quand il envoie son Fils mourir sur la croix. Il nous démontre que, écoutez, je peux faire des œuvres miraculeuses, je peux guérir les malades, mais je peux aussi ramener les morts à la vie. J'ai vaincu la mort. Et c'est ce que Dieu fait. J'ai vaincu la mort. Pour que tu puisses te réconcilier avec moi, pour que tu puisses être pardonné de tes péchés, que tu puisses avoir la vie, la joie, le bonheur. Dieu, dans tous ces actes miraculeux-là, on peut regarder ça et dire, « Ouais, ça se passe pas dans ma vie, ça se passe plus aujourd'hui, c'est décourageant, je vois pas ce qu'on voit ici. » Mais la Bible est remplie aussi de circonstances difficiles, comme on peut avoir. La Bible est remplie d'endroits où Dieu a dit « pas maintenant ». La Bible est remplie d'endroits où Dieu a dit « rappelle-toi quand j'ai fait ça, je le ferai pas aujourd'hui, mais rappelle-toi quand j'ai fait ça ». Par exemple, toutes les fois que le peuple chialait ou que le peuple réclamait quelque chose dans le désert, Dieu disait « rappelez-vous, je vous ai sorti d'Égypte avec tous les miracles que j'ai opérés à ce moment-là ». Dieu nous pointe vers quelque chose. Et de ce côté-ci de l'histoire, Dieu nous pointe toujours en nous disant « regarde qu'est-ce que j'ai fait, j'ai envoyé mon Fils mourir à la croix pour tes péchés, pour que ta joie ne dépende pas des circonstances, pour que tu puisses avoir cette joie et cette satisfaction-là que grâce à Dieu, tu es réconcilié avec lui, que grâce à Dieu, tu es pardonné et que grâce à Dieu, même pas tes circonstances difficiles du moment peuvent te détruire parce que tu as la vie éternelle avec Dieu. Regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Regarde à la croix. » Et on le voit, on voit le résultat de ces miracles. On va lire ensemble à partir du 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus. OK, eux, ce qu'ils faisaient, c'est que, juste arrêtez ici, vous dire, il y avait des incantations, il y avait des formules pour pouvoir essayer de guérir les gens, ou sortir des démons, ou faire des trucs là, miraculeux. Puis là, eux autres, ils disent, hey! Il y a quelqu'un qui parle de Jésus, puis ça marche bien plus que nous autres, son affaire. Fait que nous autres aussi, on va commencer à faire ça. On va utiliser le nom du Seigneur Jésus. Mais c'est pas des gens qui avaient cru au Seigneur Jésus, c'est des gens qui voulaient utiliser le nom du Seigneur Jésus pour pouvoir sortir les esprits mauvais sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. On va continuer ici. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Donc voici les résultats de la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y en a qui essaient de prendre le nom du Seigneur Jésus pour opérer leur miracle à eux, leur magie, comme si c'était une formule. Mais Dieu a dit non. C'est à moi que la gloire revient. C'est moi qui veux se faire connaître par ces miracles-là. Et quand les gens ont vu tout ce qui se passait, il y a encore plus de gens qui ont regardé ça et qui ont fait « wow ». Même que une autre chose qui s'est passée, c'est que tous les croyants brûlaient leurs livres de magie. On peut le revoir ici au verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. On voit ici que c'était non seulement des personnes qui, quand ils se convertissaient, ils allaient brûler leurs livres de magie, mais beaucoup de croyants apportaient leurs livres de magie pour les brûler. Ils se repentaient. Quand ils ont expérimenté la puissance puis la grandeur de Dieu, ça les a poussés à venir et confesser leurs péchés. On pouvait voir, puis il y en avait beaucoup, là, 50 000 pièces d'argent. On peut compter ces pièces-là, c'était une journée de travail. Donc, il y avait énormément de livres en valeur. Un grand nombre de personnes se tournent vers Jésus. On peut voir que le culte et le commerce autour d'Artémis en souffle. Il y a un homme du nom de Démétrius qui va comme dire « Hey, les gars, si on fait pas quelque chose, là, notre commerce là, de vendre des objets de souvenirs et des objets pour le culte d'Artémis, il n'y a plus personne qui va acheter ça. » Donc, l'économie, la société ressentait que la puissance de Dieu était en train d'agir dans cette ville. On voit, l'histoire nous dit que l'église d'Éphèse est devenue l'une des plus influentes au monde à cette époque. Les chrétiens se repentent, la magie devient de moins en moins attrayante. Et c'est exactement ce que fait la puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu en nous tourne notre adoration vers Dieu et elle nous pousse à l'obéissance. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble quatre points rapidement que produit notre obéissance, concernant notre obéissance. Tout d'abord, notre obéissance, elle est progressive. Hein? Il faut, et c'est pour ça qu'on est ici ce matin et qu'on veut se rappeler la puissance de Dieu. Parce que peut-être qu'il y a des endroits dans ta vie en ce moment que tu as besoin de donner à Dieu. Il y a peut-être quelque chose présentement que tu as besoin de confesser à Dieu. Et c'est devant ce rappel de l'impact de la puissance de Dieu dans ta vie, ultimement, Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Ce rappel et cette conviction que Dieu est plus grand et plus puissant que tout, que tu peux ce matin juste venir et confesser à Dieu tes péchés. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Comme on a vu les croyants qui ont dit « Oh, c'est vrai, j'ai encore mes livres de magie, je pratique peut-être encore, peut-être que je les lis encore, peut-être que je suis encore attiré par ça, mais là je suis convaincu que Dieu est vrai, que Dieu est tout puissant et que j'ai pas besoin de ça. » Et toutes les croyants sont venus et ont fait un gros feu public pour dénoncer l'inefficacité, le mensonge de ces livres-là, et ils se sont repentis. L'obéissance nous coûte quelque chose. Les gens d'Éphèse avaient beaucoup à perdre à suivre Jésus. Peut-être que plusieurs de ces nouveaux croyants étaient dans le commerce touristique ou dans le commerce du culte de la déesse. Peut-être qu'ils faisaient de l'argent avec ça. Peut-être que beaucoup de gens n'allaient pas être contents. L'obéissance nous coûte quelque chose, mais quand on est conscient et qu'on a expérimenté la puissance de Dieu, Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour lui obéir, pour qu'on soit prêt à payer le prix. Notre obéissance ne dépend pas des circonstances. Le troisième point, notre obéissance ne dépend pas des circonstances. On peut vivre de l'opposition. On peut être le seul autour de nous qui croyons en Jésus. On peut vivre des difficultés, que ce soit le péché autour de nous, des relations brisées ou la maladie. Mais quand on expérimente la puissance de Dieu, Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour voir au-delà de ces difficultés-là, au-delà de ces circonstances-là. Et Dieu nous donne cette assurance qu'on ne peut pas perdre ce qu'il nous a donné. Et le quatrième point, c'est que notre obéissance à Dieu, à cause de sa puissance, change le monde. Et quand que je lisais Acte 19, et on n'a pas le temps ce matin de lire toute la révolte qui s'est passée et tout ça, mais je réalisais qu'autant quand on lit la parole puis qu'il y a des endroits où il y a peu de gens qui viennent au christianisme, ou un endroit où il y a plusieurs personnes qui viennent au christianisme, Mais il y a toujours des circonstances difficiles, de l'opposition. Il y a toujours en simultané, alors que Dieu fait des grandes choses, que Dieu change des vies, que Dieu change des familles, que Dieu change des régions, il y a toujours de l'opposition. Il y a toujours des gens qui s'opposent au christianisme. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'avoir un impact. Et ça ne veut pas dire, mais ça veut aussi dire que Dieu se sert de ses enfants pour pouvoir avoir cet impact. Oswald Chambers a dit, un auteur chrétien très connu qui a dit, « N'essayons pas d'expliquer Dieu, à moins que nous lui avons obéi. La seule partie de Dieu que nous comprenons est la partie à laquelle nous avons obéi. » Et c'est ce désir que nous avons de pouvoir démontrer par notre obéissance à Dieu l'amour qu'on a pour les autres. De pouvoir démontrer comment Dieu nous aime, comment Dieu est un Dieu de pardon, comment Dieu est un Dieu de réconciliation, comment Dieu est un Dieu qui va vers ceux qui ne croient pas en lui. Et nous avons cette liberté-là de pouvoir aimer et nous investir dans la vie des gens qui ne pensent pas comme nous et qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. La puissance de Dieu transforme notre colère en douceur. Elle nous pousse vers la réconciliation. Elle porte à aimer et à faire du temps pour ceux qui ne pensent pas comme nous. Lorsque les chrétiens du premier cercle étaient devant le bûcher, prêts à être exécutés pour leur foi, on leur donnait une dernière chance de renier leur foi et de se soumettre au Dieu romain et à l'empereur. Et la réponse de ces croyants était déstabilisante. Devant la foule et devant l'évidence qu'ils allaient mourir parce qu'ils ont vu un frère ou une sœur mourir il n'y a pas longtemps, ils répondaient, « Mais qu'avons-nous fait de mal? Nous ne sommes que chrétiens. » La paix, la douceur, l'amour, l'obéissance de ces croyants, de ces chrétiens a fait trembler le monde au premier siècle. Et malgré les circonstances, malgré l'apparence parfois que Dieu est peut-être plus populaire ou que c'est pas dans cette direction-là qu'on s'en va de changer le monde. Dieu nous demande de continuer à lui obéir, à croire dans sa puissance et d'expérimenter sa puissance pour que le monde puisse voir à quel point il est meilleur et il est plus puissant que tout. Vivons comme un peuple qui avons cette assurance que ce que Dieu a fait, il va l'accomplir un jour et on va vivre pour l'éternité avec lui. J'aimerais que les gens autour de nous puissent au moins voir l'amour que les gens, que Dieu procure. Que les gens autour de nous puissent voir la puissance que Dieu manifeste. Et qu'on puisse prier que Dieu puisse transformer nos vies, continuer à le faire, transformer les vies des gens qui sont autour de nous et avoir un réel impact dans notre ville et partout dans le monde. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et c'est vraiment un bon temps pour se recueillir. Le repas du Seigneur, c'est Jésus qui dit, qui est avec ses disciples, juste avant de mourir, et il leur dit, en leur donnant le pain et la coupe de vin, en lui disant, « Je vous partage mon corps, je vous partage mon sang, c'est ce que je vais donner pour vous, je vais donner ma vie pour vous, pour que vous puissiez être réconciliés avec moi, pour que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés, pour que vous puissiez vivre votre vie remplie d'espoir et de joie. » Et ce matin, peut-être que tu es ici, puis je veux vraiment pas te laisser dans la culpabilité ou la honte. Au contraire, la puissance de Dieu se manifeste en nous pour nous pardonner, pour nous libérer de nos péchés, de nos manquements. Je t'encourage à venir devant Dieu ce matin. Je t'encourage à confesser un péché, un manquement, s'il est là ce matin. Je t'encourage à donner ta vie au Seigneur Jésus, de croire qu'il peut te sauver et se réconcilier avec toi. Ce matin, je t'encourage à venir à cette table de la grâce où Dieu a démontré sa puissance pour qu'on puisse lui obéir. Alors, pendant le chant qu'on va chanter, vous pouvez chanter, mais vous pouvez aussi juste vous recueillir et parler avec Dieu puis confesser un péché si vous avez besoin de le faire. Et rappelez-vous que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Chantons ensemble.